Dans le casque, tant que les auditeurs nous entendent.
Dans le casque, il n'y a rien. Ah bon, bah, j'espère que tout le monde nous entend, parce que moi, dans mon casque, j'entends aussi. Donc,
ah bah, tant mieux, ça enregistre, c'est bon. Allez, c'est parti.
Donc, une heure d'émission en direct sur les droits humains, sur l'actualité pour les droits humains. Et pour commencer cette émission, parce qu'il faut rester mobilisé pour les droits humains, c'est fondamental, pour relancer cette nouvelle saison, je vais vous lire un tout petit extrait d'un édito du nouveau président d'Amnesty France, qui s'appelle Jean-Claude Samouillet, et qui a écrit la chose suivante. « Les droits humains ne sont jamais acquis. » Il n'est qu'à voir le brutal coup d'arrêt imposé aux droits des Afghanes depuis la prise de Kaboul par les talibans. Entre parenthèses, Claire Lys va vous en parler tout à l'heure. Le retour de la guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la remise en cause du droit à l'avortement par la Cour suprême des États-Unis. Sans cesse, nous devons revendiquer, défendre et protéger les droits humains de la personne humaine. Et cela passe souvent par l'exercice du droit de manifester. Qu'on se souvienne de la marche du sel en Inde en 1930 contre la domination coloniale britannique, de la journée nationale de protestation de 1950 en Afrique du Sud contre l'apartheid, de la marche sur Washington en 1963 pour les droits civiques des Noirs américains, des manifestations de Stonewall à New York en 1969 et des marches des fiertés qui ont suivi pour réclamer le respect des droits humains des personnes LGBT. Qu'on se souvienne des manifestations d'étudiants pour la réforme démocratique sur la place Tiananmen en 1989, des mères et grand-mères de la place de Mai en Argentine dans les années 70 et 80, des soulèvements du printemps arabe, et plus récemment des protestations qui ont traversé les frontières en réponse à de profondes injustices et inégalités. Black Lives Matter, MeToo ou les marches pour le climat. Voilà, c'était... un petit rappel, effectivement, de l'importance de rester mobilisé, de manifester et surtout de protester contre toutes les atteintes aux droits humains. Et pour ça, on compte aussi sur les auditeurs et les auditrices de Principe Actif. Donc voilà, on va, comme je vous disais, on va vous parler de, mais c'est Claire Lys qui va le faire, de l'Afghanistan. Et donc, je lui laisse la parole.
Alors, au niveau de l'Afghanistan, j'avais envie de vous parler de deux choses aujourd'hui. D'abord, un petit article qui est paru sur le site d'Amnesty International qui parle du sort des Afghans fuyant le pouvoir taliban. Donc, Marie Forestier est chercheuse pour Amnesty International et en mars 2022, elle est allée en Afghanistan. Elle a réalisé une première enquête de terrain sur les droits humains depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Dans une interview pour notre magazine La Chronique, Marie Forestier raconte les refoulements illégaux des réfugiés afghans pratiqués par la Turquie et par l'Iran à leurs frontières. Donc je vais vous lire des petits extraits de cette interview. Quel est le sort des Afghans qui fuient leur pays aujourd'hui ? Donc nous avons découvert que les autorités iraniennes et turques les renvoient en Afghanistan. Ces retours forcés sont illégaux, car il prive ces Afghans qui ont fui le régime taliban de leur droit de déposer une demande de protection internationale. Et parce que le droit international interdit de refouler une personne qui est exposée à un risque sérieux de violation des droits humains dans un pays vers lequel on la repousse, les 76 Afghans que nous avons interrogés en Afghanistan, à Kaboul, à Herat, à Islamkala, sur la frontière avec l'Iran, ainsi qu'en Turquie, à Istanbul et à Van, près de la frontière iranienne, ça nous ont permis de documenter 121 cas de retour forcé. Et parmi eux, il y avait d'anciens membres des forces de sécurité afghanes qui sont particulièrement en danger avec les talibans au pouvoir. Alors comment se passent ces retours forcés de l'Iran vers l'Afghanistan ? Eh bien les gardes frontières iraniens arrêtent les Afghans, les regroupent dans des centres de détention, ils sont détenus en général quelques jours, puis, ils doivent payer leur trajet dans le bus qui les ramène vers l'Afghanistan. Tant qu'ils n'ont pas d'argent pour payer, ils restent en détention. À Islamkala, sur la frontière, nous avons vu un bus se stopper côté iranien, les Afghans en descendre et revenir à pied côté afghan. Les chiffres sont énormes, plusieurs milliers de retours par jour, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Donc c'est quand même pas rien, ouais. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas demander une protection internationale. Dans le numéro de septembre 2022 de la chronique d'Amnesty, vous retrouvez une enquête exclusive à Kaboul portant sur les Afghans abandonnés par la France. Ainsi, que l'interview de Nicole Waldman, une autre chercheuse d'Amnesty International, s'étant rendue en Afghanistan en mars 2022. Elle a recueilli les témoignages de plus de 100 Afghanes issus de 20 provinces du pays. Donc certains Afghans sont passés en Iran, décident de se rendre ensuite en Turquie. Et que leur arrive-t-il? Eh bien, les forces de sécurité turques ouvrent le feu à leur passage ou les arrêtent sur le chemin. Ensuite, ils les reconduisent en bus ou à pied vers des points de passage informels de la frontière iranienne où ils les font passer par-dessus ou par-dessous les barbelés, parfois sous la menace des armes. Donc, ces refoulements font-ils des morts ou des blessés? Eh bien, notre enquête révèle qu'aux deux frontières, les forces de sécurité turques ou iraniennes tirent en l'air ou directement sur les Afghans. Sur 76 personnes interrogées, 48 ont essuyé des tirs. Nous avons documenté 7 homicides illégaux, 6 hommes et 1 garçon de 16 ans, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, et 17 blessés par balle aux frontières turco-iraniennes et irano-afghanes. Parmi ces blessés, 4 témoignent avoir été détenus malgré leurs blessures et refoulés sans recevoir de soins. Donc, avez-vous documenté d'autres mauvais traitements? Donc, 44 Afghans nous ont dit avoir été torturés ou avoir subi de mauvais traitements sur la route ou en détention, 23 en Iran et 21 en Turquie. Selon leurs témoignages, les forces de sécurité les ont frappés, leur ont refusé des soins médicaux et dans certains cas en Turquie, les ont laissés dehors la nuit sous la neige en sous-vêtements. Si l'on résume, nous avons documenté des recours forcés illégaux, des homicides illégaux, une utilisation illégale de la force, des arrestations, des détentions arbitraires, des tortures et des autres mauvais traitements, ainsi que l'absence d'accès à la protection internationale. Et comment les talibans accueillent-ils les Afghans refoulés? Les contrôlent-ils à leur retour? Subissent-ils des représailles? Eh bien, les talibans contrôlent leur identité à la frontière, mais nos 76 témoins affirment n'avoir subi aucune représaille. Les talibans ne les punissent pas pour avoir fui et leur disent « Bienvenue à leur retour !» Mais cela ne va pas dire qu'il ne leur arrivera rien. Par exemple, un ancien membre des forces de sécurité afghanes que les talibans pourchassent aujourd'hui et qui a disparu. Les autorités talibanes ont-elles laissé Amnesty International travailler librement? Oui. Le ministère des Affaires étrangères nous a autorisés à travailler sans imposer de conditions ni de limites à nos recherches. Nous avons pu rencontrer chaque témoin sans subir la présence des autorités. Donc ça, c'est assez étonnant.
Oui.
Voilà. Et puis, donc, un article dans la chronique sur le sort des femmes afghanes. Donc, c'est un article qui s'appelle « Ne m'effacez pas ». Parce qu'il y a une des militantes afghanes qui, en fait, est prise en photo en train de noter des slogans avec une bombe dans la neige. Et je pense qu'elle a dû marquer aussi « ne m'effacez pas, ne nous oubliez pas ». Donc, je vais vous lire un petit article de la chronique sur la situation des femmes en Afghanistan, parce que je trouve que c'est quand même
important.
Bon, très important. Oui, Mina, on est deux. Alors, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, les talibans tentent de museler les Afghanes. Bravant la répression, certaines sont entrées en résistance. « Ce que je veux, moi, c'est vivre dans ce pays sans qu'un homme me gouverne ou me dise comment m'habiller ». Donc, Samaï Tawana Nassiri, c'est d'elle dont je vous parlais, couvre ses cheveux noirs d'un foulard rouge. Choix personnel. Aucune contrainte. Cette ancienne secrétaire au ministère du pétrole, âgée de 24 ans, nous reçoit à Kaboul dans son bureau, au mur tapissé de livres religieux, surveillée par des proches. Depuis qu'elle défend les droits des femmes, les talibans sont à ses trousses. L'année qu'elle vient de vivre illustre la persécution qu'endurent depuis un an les féministes afghanes. Sa résistance a commencé le 3 septembre 2021, 18 jours après l'entrée des talibans dans Kaboul. Quand ils annoncent des restrictions à venir sur le travail des femmes, Samaï active un groupe WhatsApp de 15 amis pour réfléchir aux moyens de résister. Elle décide vite. On part manifester au quartier présidentiel avec des affichettes portant nos revendications. Des études, du travail, du pain et le slogan « Si vous oubliez les femmes, vous oubliez la nation ». Alors moi, j'ai été frappée hein, parce qu'on a vu plusieurs photos de ces Afghanes qui manifestent, qui ont le courage de manifester face aux talibans. Et les talibans n'osent rien leur faire dans la rue, en tout cas, les laissent manifester. Alors, je reviens à l'article. Sur place, une dizaine de caméras les attend. 8 talibans débarquent à leur tour, turbans, fusils d'assaut, gilets à munitions. Ils laissent tranquille les manifestantes et se mettent à taper sur les caméramens en criant « C'est défendu de filmer les femmes !» Chamaï nous fait voir les images et commente. Elles ont fait le tour du monde. Elles ont montré aux talibans qu'on existe. Le lendemain, les jours d'après, Chamaï et ses amis manifestent encore. Les voilà 30. Les talibans viennent plus nombreux. Des dizaines et toujours ce rugueux maintien de l'ordre à la crosse du fusil. Une tête saigne. Chamaï prend des coups à l'épaule et aux mains. Elle s'en remet. J'essaye de leur parler. Ils refusent. Pour nous, les femmes, ils n'ont que cette phrase à la bouche. Rentrez dans vos maisons. Les talibans envoient des gaz, éborgnent un journaliste, ils en embarquent deux autres et ils dispersent les 30 femmes en tirant des rafales en l'air. 3 jours plus tard, Chamaï réunit ses amis à la maison. On réfléchit à des moyens de défier les talibans sans risquer de nous faire tuer ou éborgner. Elle tourne une quinzaine de vidéos où chaque femme réclame, visage caché ou non, le droit de travailler, d'étudier, de gouverner. Milliers de vues sur Facebook. Les talibans les likent aussi. Ils commencent à cibler Chamaï. Le 14 janvier, un proche du ministère de la Communication tweete la photo de la jeune opposante, accompagnée d'un message l'accusant de sédition contre le gouvernement. Chamaï change de numéro de téléphone, déménage et poursuit son combat. Le 11 février 2022, avec 4 compagnes, elle gravit à pied une montagne située à 20 km de Kaboul. Un rocher les arrête. Elle bombe dessus à la peinture des slogans féministes assortis au contexte. Acceptez-moi, ne m'effacez pas. 8 jours après, autre montagne. Elle dessine sur la neige un slogan de plusieurs mètres en 3 couleurs, noir, rouge et vert, du drapeau national aboli par les talibans. Elle filme l'œuvre, elle l'envoie sur Facebook. Amnesty International rapporte que cet hiver-là, les talibans ont détenu au moins 33 militantes des droits des femmes ayant pris la parole ou participé à des manifestations. Nous en avons contacté plusieurs à Kaboul. Les talibans les ont tellement intimidées qu'elles s'interdisent de raconter leur détention. Avril 2022. C'est Chamaï qu'ils recherchent. Ignorant son déménagement, ils interrogent les voisins de son ancien domicile. « On cherche cette femme, c'est une activiste. Montrez-nous dans quelle maison elle habite. » Solidaires, voisins et anciennes propriétaires répondent que l'activiste a déménagé au Pakistan. Heureux répit pour Chamaï. Mais quand en mai dernier les talibans annoncent que toute afghane devra porter la burqa ou le niqab, elle tombe l'armure du faux exil et s'expose. Elle réunit son groupe, des feutres de couleurs, des pancartes et elle file manifester dans un jardin public. Droite, dans une robe afghane bariolée, elle porte une inscription à bout de bras. La burqa ne vient pas de l'islam, c'est le vêtement d'un groupe ethnique. Les féministes font tourner les images sur Facebook. On en déduit que les talibans savent maintenant que leurs opposantes sont à Kaboul et non au Pakistan. Chamaï, presque à regret, en convient, mais elle s'accroche au brin de liberté qui lui reste. Ils n'ont pas mon adresse. Voilà. Donc, si vous allez voir, je vous invite aussi à voir un rapport d'Amnesty International qui a été publié le 27 juillet 2022. Afghanistan, la répression suffocante des talibans détruit la vie des femmes et des filles. Voilà. Et c'est un rapport aussi qui est vraiment très, très bien documenté sur les femmes en Afghanistan.
Juste un petit complément, ça m'a fait penser à ça en t'écoutant, Clarlis. J'ai vu dimanche soir sur France 5 un documentaire très bien fait. Alors, c'est pas consacré spécialement aux droits des femmes en Afghanistan, mais sur l'Afghanistan, sur l'histoire de la guerre, les 40 ans de guerre en Afghanistan, et qui, entre autres, explique très bien les différentes trahisons des pays occidentaux vis-à-vis de la population afghane et le pourquoi de l'arrivée au pouvoir des talibans. J'ai plus le titre du documentaire en tête, mais enfin c'est Afghanistan quelque chose. Et donc c'était.
C'est pas un an déjà.
Je sais plus, peut-être oui. En tout cas, il était diffusé dimanche soir et il est visible en replay sur la chaîne France 5 sur Internet. Il y a pas de souci. Ouais, c'est très très bien fait. Et ça explique beaucoup de choses.
Moi je sais pas. Me regarde pas. Moi j'ai regardé un film sur les pervers narcissiques que je dis.
Les quoi ?
Les pervers narcissiques.
Ah, les pervers narcissiques, d'accord.
Rien J'étais à pas voir. Sur l'Afghanistan.
Rien à voir.
Un d'accord. an après.
Non, mais ça explique beaucoup de choses, c'est très bien fait. Après, c'est ce sujet dramatique, effectivement, sur la situation des femmes en Afghanistan, mais il ne faut pas les oublier, loin de là. deux ou trois bonnes
nouvelles. D'autant plus que ça fait un an que les événements se sont passés en Afghanistan. C'est un triste anniversaire et il y a quand même eu beaucoup d'oubliés et de laissés pour compte là-bas.
Tout à fait. Quand même une bonne nouvelle ou deux, parce qu'on en a eu pendant cet été des bonnes nouvelles. Heureusement qu'on n'a pas que des nouvelles traumatiques. Hein. Ça aide quand on agit et quand on milite. Alors, une bonne nouvelle concernant la France, 35 enfants de djihadistes rapatriés. La France a rapatrié le 5 juillet 35 mineurs et 16 mères qui croupissaient dans les camps de prisonniers djihadistes administrés par les Kurdes en Syrie depuis la chute de l'organisation État islamique. Les mères ont été remises aux autorités judiciaires et les enfants au service d'aide à l'enfance. Ces 35 enfants s'ajoutent aux 126 autres dont les parents avaient rejoint des territoires repris à l'État islamique, déjà rapatriés en France depuis 2016. Avant le rapatriement de juillet, il restait plus de 200 mineurs et 80 mères dans des camps du nord-est syrien, contrôlés par les Kurdes, où les conditions de vie sont épouvantables selon l'ONU. La France avait été condamnée en février dernier par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie et du droit des enfants à la protection contre des traitements inhumains et dégradants. Et je sais qu'on avait parlé de ce sujet dans une émission avant les vacances. Si vous réécoutez nos émissions en podcast quelques temps avant les vacances, vous pouvez le retrouver.
Est-ce que c'est moi qui l'avais raconté ?
Je crois que c'était ça, effectivement. Oui. Une autre bonne nouvelle pour ceux qui participent à notre campagne 10 jours pour signer tous les ans au mois de décembre, et vous êtes nombreux à le faire. On a soutenu l'an dernier un syndicaliste autochtone au Guatemala, injustement emprisonné, Bernardo Coal Xol, 50 ans, et il a été libéré le 24 mars du centre pénitentiaire de Cobane après plus de 4 années d'emprisonnement. Le juge a ordonné sa libération pour bonne conduite, selon ses avocats, mais pour Amnesty International, aucune preuve n'étayait l'accusation. Bernardo Coal Xol, enseignant et défenseur des droits du peuple Maya Kwechi, était incarcéré depuis le 30 janvier 2018 parce qu'il défendait les droits des communautés touchées par la construction d'un projet hydroélectrique sur le fleuve sacré Cahabon, au nord du Guatemala. Son cas a été présenté donc dans la campagne 10 jours pour signer 2021. Donc comme quoi, effectivement, agir, même dans les campagnes de signature de pétitions et autres, c'est utile. La preuve, il a retrouvé la liberté. Eh bien, on va passer tout de suite à la première pause musicale. On se retrouve juste après. On va vous parler culture, on va vous parler de la Russie, on va vous parler de beaucoup de choses. Ne quittez pas l'écoute.
Ce monde à la dérive, barré comme un bateau ivre, où sont passés les commandants de bord. Et d'abord, qu'on ait voté pour ou contre, c'est la course contre la montre, entre les plus faibles et les plus forts. Plus d'accord. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île, au trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. S'écroule, c'est la panique dans la foule. Chacun se bat pour sauver sa peau, sauf qui peut. Autour des canaux de sauvetage, les rescapés du naufrage luttent à mort pour maintenir leur corps hors de l'eau. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île. Là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. survive ou qu'on en crève. Il faut poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans regret ni remords. Et toujours. Le cœur armé de courage, s'arracher au grand naufrage des humains prisonniers de leur peur, de l'amour. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île, ô trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur les droits humains. Et on vient d'entendre « Délire d'alarme » de Jacques Higelin. C'est un petit coup d'œil à Claire Lise, parce que Claire Lise, comme beaucoup d'entre nous, est une inconditionnelle de Jacques Higelin.
Maintenant, on ne fait plus des clins d'œil, on fait des coups d'œil.
Oui, oh oui. Bon, ça...
Oh, elle était belle, elle est magnifique.
Ouais. C'est ça. Donc voilà, alors pour continuer sur l'émission, moi je vais vous parler de la situation en Russie. C'est vrai que les médias en parlent beaucoup, mais des informations que non, les médias ne font pas trop part de ce qui se passe en fait en Russie avec la guerre en Ukraine, mais de ce qui se passe, ce qu'on peut savoir sur le territoire russe. Alors que la Russie poursuit sa guerre contre l'Ukraine, elle mène également une bataille sur le front intérieur. Les cibles, les étudiants, avocats, journalistes, artistes s'exprimant contre la guerre en Ukraine. Beaucoup sont aujourd'hui en prison. L'analyse de l'arsenal législatif déployé par le Kremlin pour faire taire les voix critiques. Dès les premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités ont réprimé des milliers de manifestants pacifistes et se sont attaqués à de nombreux médias indépendants. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'ai appris que le dernier journal d'opposition qui publie encore, Novosti Gazeta, un nom comme ça, a été définitivement interdit là pendant l'été. Très vite, le Kremlin a déployé de nouvelles lois afin d'incriminer toute voix critique remettant en cause le récit officiel imposé par le régime de Poutine. Résultat, des opposants politiques, artistes, journalistes et simples citoyens ayant exprimé publiquement leur opinion sont aujourd'hui derrière les barreaux. Nous appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle. Quelques jours après l'invasion, les membres de l'Ukraine, bien sûr, donc en février, les membres de la Douma, c'est le Parlement russe, ont amendé un ancien projet de loi et notamment introduit plusieurs articles criminalisant la diffusion de fausses informations, entre guillemets, concernant les forces armées russes ainsi que toutes les expressions d'opinion critiques à l'égard des autorités russes, de leurs actions et de leur politique. Il y a différents articles, bon, je ne vais pas tous vous les citer, qui renforcent la répression sur la liberté d'expression par rapport aux protestations contre la guerre. Et donc, ces lois ont été promulguées par le président Vladimir Poutine et sont entrées en vigueur le 4 mars 2022. Cette procédure éclair a empêché tout débat public sur les amendements et a démontré que les autorités ne toléreraient aucune critique de la guerre en Ukraine. Le 25 mars 2022, les législateurs ont encore modifié l'article 207 afin de criminaliser la diffusion d'informations sciemment fausses, entre guillemets toujours, non seulement au sujet des forces armées russes, mais aussi de tout organisme d'État russe agissant à l'étranger. Autre petite parenthèse personnelle, on rappelle que les bureaux d'Amnesty à Moscou ont également été fermés en avril dernier. Alors donc, il y a différents...
Les talibans, ils sont plus cool que Poutine.
Oui, il faut croire. Donc les sanctions résultant de ces poursuites et de ces différents articles de loi comprend des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans ou des amendes de 3 à 5 millions de roubles, environ 50 000 à 83 000 euros. Selon les circonstances, la peine maximale prévue par cette loi peut atteindre 15 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc hein, tout ce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est qu'environ 16 000 personnes ont été arrêtées en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. 200 personnes risquent des poursuites pour s'être opposées à la guerre. Et 80, c'est le nombre d'affaires pénales en cours actuellement pour diffusion de ces, entre guillemets, fausses informations. Bon, et l'article continue en reparlant, et c'est ça qui m'a toujours trouvé aussi intéressant et qu'on ne trouve pas effectivement dans les médias classiques en France, le cas de plusieurs personnes dont on a entendu parler au début de la guerre. Vous vous souvenez de cette journaliste qui avait en direct lors du journal télévisé sur une chaîne russe brandi un panneau où c'était marqué Poutine ment. On vous ment, effectivement, il s'agit bien de guerre en Ukraine. Donc elle s'appelle Marina Osvanikova. Donc c'est une ancienne rédactrice en chef de la chaîne gouvernementale russe Channel One. Donc elle a attiré l'attention des médias internationaux lorsqu'elle a interrompu le journal télévisé en direct en déployant cette pancarte. Elle a été condamnée à une amende pour tenue d'un rassemblement public illégal. Elle a quitté son emploi à la télévision et s'est installée en Allemagne. Donc elle a dû fuir. En juillet 2022, cette femme qui est très courageuse, elle est retournée à Moscou et elle a manifesté près du Kremlin avec une autre pancarte qualifiant Vladimir Poutine d'assassin, indiquant que 352 enfants avaient été tués en Ukraine. La manifestation n'a duré que 4 minutes, mais a été largement couverte par les médias indépendants. Le 10 août, le comité d'enquête, organisme public autonome chargé d'enquêter sur les infractions graves, a perquisitionné son domicile, l'a de nouveau arrêté et interrogé. Selon les autorités, elle avait diffusé des informations sciemment fausses. Le lendemain, à l'issue d'une audience à huis clos, elle a été placée en résidence surveillée, où elle se retrouverait toujours au moment où l'Amnesty a publié l'article. Donc voilà. Autre personne qui a manifesté, autre femme, Alexandra Skolinenko, une artiste de Saint-Pétersbourg, a remplacé les étiquettes de prix dans un supermarché local par des notes contenant des informations sur la guerre en Ukraine. Le 11 avril, les agents du comité d'enquête l'ont arrêtée et inculpée de diffusion d'informations sciemment fausses. Elle a été placée en détention provisoire malgré son état de santé, car elle souffre de maladies cardiaques, qui nécessitent un régime spécial sans gluten et qu'elle n'a pas reçu en détention provisoire. En juin, elle a été placée dans une clinique psychiatrique de Saint-Pétersbourg pendant 20 jours pour un examen de sa santé mentale. Victoria Petrova, une cadre travaillant à Saint-Pétersbourg, utilise Vonkak, si je prononce toujours très mal, le russe, un réseau social russe pour discuter des événements en cours avec plusieurs amis. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a régulièrement rassemblé des vidéos provenant de diverses sources et les a partagées sur sa page, en demandant aux internautes de ne pas faire confiance aux médias officiels et de protester contre la guerre. Elle a été arrêtée 2 fois pour avoir manifesté pacifiquement dans la rue et a passé 10 jours en détention administrative en mars. Tôt dans la matinée du 6 mai, la police l'a arrêté à son domicile et l'a accusé de violation de l'article 207, ce fameux article qui répertorie tout ça. Sa résidence a été fouillée et les enquêteurs ont saisi son matériel électronique ainsi que ses pancartes anti-guerre. Voilà. Donc, ces histoires de Marina, je vais me lancer encore à lire les noms russes, Ovsanikova, Alexandra Sonskilenko et Victoria Petrova sont loin d'être des cas isolés. De nombreuses autres personnes subissent de plein fouet la répression du Kremlin. En éliminant les voix critiques, les autorités russes tentent de renforcer le soutien du public à leur guerre d'agression en Ukraine. Or, pouvoir accéder et partager des informations et exprimer des opinions sont essentiels à la construction du mouvement anti-guerre en Russie. Voilà, je pensais que c'était important.
En antenne, je te disais tout à l'heure, Didier, qu'apparemment, il y a quand même un mouvement de plus en plus fort de médias, de députés qui écrivent à la Douma pour mettre en cause la gestion de la guerre par Vladimir Poutine. Et c'est en train de bouger quand même un petit peu au niveau de l'opinion publique en Russie. Alors, c'est pas toute l'opinion publique. Il faut être attentif à ce qui va se passer pour ces gens-là, parce que j'espère qu'ils ne vont pas être emprisonnés. Mais apparemment, il y a des journaux officiels qui commencent à parler et à dire que quand même, ce qui se passe en Ukraine, bon, ils se prennent une veste en ce moment et ils sont obligés quand même de reconnaître que c'est pas une victoire totale et que même ils en sont loin et que la gestion est quand même assez désastreuse, la gestion des armées russes. Et ça commence à émerger. Ils ont eu beau interdire plein de journaux, même dans les journaux qui existent et qui étaient autorisés, ça commence à transparaître.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est intéressant parce que il y a un mouvement d'opinion qui commence à faire une vague.
Oui.
J'espère que ça va être une vague déferlante.
De toute façon, comme tout régime dictatorial, et la Russie est, après une petite parenthèse très courte de début de démocratie, est redevenue une dictature avec Poutine, ça c'est clair. Mais enfin, avec Amnesty, ça fait des années et des années qu'on le dénonce. On n'a pas attendu le début de la guerre en Ukraine pour dénoncer les agissements de Vladimir Poutine. Mais bon, il est sûr que si jamais il y avait une défaite militaire, malheureusement les populations civiles sont en première ligne et trinquent, mais si jamais il y avait une défaite militaire en Ukraine, il est évident que l'autorité chez lui de Vladimir Poutine serait sérieusement ébranlée, et que peut-être que les gens qui effectivement ne s'opposent pas à la guerre parce qu'en fait ils se taisent par peur, hein, comme dans toute dictature, hein, les gens courbent le dos et puis attendent que ça se passe, hein. On a connu ça aussi chez nous à d'autres époques, et c'est sûr que les protestations iraient en s'amplifiant, ça c'est tout à fait évident. Voilà.
Merci à toi, Didier.
Sans transition, je crois qu'on va aller au Liban.
Et
avec...
J'ai changé de destination.
Ah, et voilà.
Il est 19h33, nous allons passer directement à la rubrique culturelle engagée.
Vas-y.
Alors, dans la chronique de septembre, un documentaire que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, qui est sorti fin août 2022, documentaire en film d'animation, qui s'appelle Flea. Donc on en parle beaucoup dans les médias. Et ce coup de cœur, le résumé, est fait par Aurélie Carton. Alors je vous lis. Bouleversant documentaire d'animation, Flea dévoile le destin contrarié d'Amin, réfugié afghan au Danemark et ami du réalisateur Jonas Poer Rasmussen. Allongé les yeux fermés dans un dispositif qui évoque immanquablement la cure analytique, Amin, le prénom a été modifié pour préserver son anonymat, se confie à Jonas. Il remonte ainsi le fil de ses souvenirs depuis sa jeunesse afghane jusqu'à son arrivée seule à 16 ans à Copenhague. Comme des bulles colorées, les images du passé affleurent. Autant de fragments restitués par un mélange de dessins d'animation et d'images d'archives. Une enfance joyeuse dans le Kaboul des années 1980, malgré le pressentiment de sa différence. Le début de la guerre civile, la disparition du père enlevé à la famille par les Moudjahidines et la fuite pour tenter de rejoindre son frère, un frère en Suède. Le film alterne les épisodes tragiques, souvent dessinés au fusain en noir et blanc, violence policière à Moscou, terrifiante traversée de la Baltique, éparpillement de la famille, avec les scènes de son existence actuelle. Aujourd'hui trentenaire, Amin est un professeur d'université reconnu qui vit en couple avec son compagnon danois Casper, mais Flea, fuir en français, nous parle également d'un homme qui, grâce à une oreille amicale, se réconcilie avec sa vérité, celle qu'il a occultée pendant 20 ans pour assurer sa survie. Trois fois nommé aux Oscars, meilleur documentaire, meilleur film d'animation, meilleur film international, ce long métrage a raflé quantité de prix dans les festivals. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Flea de Jonas Poer Rasmussen. Ensuite, justement, en parlant de choses qu'on a oubliées et qu'on a mis de côté, Lola Lafont, dans son dernier roman, qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson » aux éditions Stock, se remet en mémoire, elle l'a oublié pendant un moment, elle savait qu'elle venait d'une famille russe juive, et là, elle va commencer... à s'intéresser à Anne Frank, à son journal et surtout à l'écrivaine qui était Anne Frank. Je vais vous lire le début, en sachant que à Amsterdam, où habitaient les Francs, qu'il y a l'annexe, ou qui est dans le musée. C'est devenu un musée. Et vous pouvez aller dans les pièces vides, mais allez voir. Et elle a passé une nuit au musée, à l'annexe. C'est elle, une silhouette à la fenêtre surgit de l'ombre, une gamine. Elle se penche, la main posée sur la rambarde, attirée sans doute par un bruissement de rire dans la rue. Celui d'un élégant cortège de robes satinées et de costumes gris. Elle se détourne, semble héler quelqu'un. C'est un mariage, viens, viens, voir. Elle insiste d'un geste de la main. Impatiente, elle appelle encore qu'on la rejoigne vite. C'est si beau, ce chatoiement d'étoffe, ce lustre des chignons. C'est elle au deuxième étage d'un immeuble banal, une petite silhouette qui rentre dans l'histoire au hasard d'un mouvement de caméra. Elle est vivante, elle trépigne, celle qu'on ne connaît que figée sur des photos en noir et blanc. Elle a 12 ans, il lui en reste 4 à vivre. Ce sont les uniques images animées d'Anne Frank. Des images muettes, celles d'un court film amateur tourné en 1941, sans doute par des proches des mariés. Cette seconde de vie, à peine une éclipse. Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus. La seule jeune fille juive à être si follement aimée. Anne Frank, la sœur imaginaire de millions d'enfants qui, si elle avait survécu, aurait l'âge d'une grand-mère. Anne Frank, l'éternelle adolescente qui aujourd'hui pourrait être ma fille, attend pour toujours l'âge auquel on cesse de vivre. Anne Frank, que le monde connaît tant qu'il n'en sait pas grand-chose. Une image, celle d'une pâle jeune fille aux cheveux sagement retenus d'une barrette, assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. Un symbole, mais de quoi? De l'adolescence? De la Shoah? De l'écriture? Comment l'appeler, son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre, celle d'une adolescente enfermée pour ne pas mourir, dont les mots ne tiennent pas en place? Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant. Anne Frank, à laquelle sont dédiées des chansons, des poèmes et des romans, des requiems et des symphonies. Son visage est reproduit sur des timbres, des tasses et des posters. Son portrait est tagué sur des murs et gravé sur des médailles. Son nom orne la façade de centaines d'écoles et de bibliothèques. Il a été attribué à un astéroïde en 1995. Ses écrits ont été ajoutés au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en 2009 aux côtés de la Magna Carta. Anne Frank, qui, à l'été 2021, fait la une des actualités néerlandaises à Amsterdam, des manifestations anti-pass sanitaire brandissent son portrait, ils scandent « Liberté, liberté ». Anne Frank, vénérée et piétinée. Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank dans l'annexe. Je suis venue en éprouver l'espace, car on ne peut éprouver le temps. On ne peut pas se représenter la lourdeur des heures, l'épaisseur des semaines. Comment imaginer 25 mois de vie cachés à 8 dans ces pièces exiguës? Alors toute la nuit, j'irai d'une pièce à l'autre, j'irai de la chambre de ses parents à la salle de bain, du grenier à la petite salle commune, je compterai les pas dont Anne Frank disposait, si peu de pas. Comment l'appeler? Je dis Anne, mais cette fausse intimité me met mal à l'aise. Je ne peux pas dire Anne, quelque chose m'en empêche, qui, au cours de ma nuit, se matérialisera par l'impossibilité d'aller dans sa chambre. Alors je dis Anne Frank, comme on fait l'appel, comme on évoque l'ancienne élève brillante d'un collège fantomatique. 2 syllabes. La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Je me préparais à être au diapason du vide, à la recevoir. Je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. Voilà, je vous ai fait la petite intro du roman. À savoir, donc... Elle a commencé ses recherches quand elle a retrouvé le médaillon que Ida, sa grand-mère, lui avait donné quand elle était jeune, à Lola Lafont. Et il y avait une image, pas la vraie image d'Anne Frank, vu qu'elle est morte à 16 ans, mais d'Anne Frank dessinée. Et en lui donnant ce médaillon, elle a dit « N'oublie jamais ». N'oublie jamais. Et justement, elle avait fait taire ses origines juives quand elle était à l'école et tout, Lola Lafont. Elle voulait pas qu'on en parle, elle voulait vivre dans le silence, normalement. Et là, elle en parle et elle repart aussi dans ses origines, en repartant sur Anne Frank. Et surtout, remettre à sa place Anne Frank, en sachant que quand le père d'Anne Frank, on lui a demandé de pouvoir éditer son journal ou le mettre en théâtre ou en film, on a beaucoup coupé des choses, alors qu'elle avait déjà fait un travail, Anne Frank, de réécriture de son journal. Mais très intéressant. Alors, je vous conseille de lire le Lola Lafont. Et vous vous rappelez du titre, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Quand tu écouteras cette chanson. Oui. Aux éditions Stock.
Non, moi, je ne m'en rappelais plus, j'avoue. Juste un petit mot avant qu'on passe la deuxième pause musicale. Mina, tu peux peut-être, parce qu'au niveau des auditeurs, il y a sûrement des jeunes auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tant que ça le nom d'Anne Frank, nous rappeler en deux mots ce qui s'est passé pour elle.
Bah, Anne Frank.
Oui.
Elle était juive.
Oui.
Et donc, elle a vécu avec ses parents cachés dans l'entreprise, tout en haut, dans l'annexe. Et elle a écrit
pendant l'occupation nazie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça. Échapper, en voilà. Fait, pour ne pas être raflée et pour ne pas partir en camp d'extermination.
C'est ça.
Voilà. Merci pour le côté 1945, Seconde Guerre mondiale.
Je n'étais pas née non plus, ma belle.
Elle a écrit non, un non journal, et
non.
Voilà.
Non, mais il faut le rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément tout ça en tête. Deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Anything for booze.
de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la dernière partie de son émission sur l'actualité des droits humains. On vient d'entendre un groupe américain qui s'appelle Hills, voilà. Anything for Boo, c'est le titre du morceau.
C'est bien Hills.
C'est ça, oui c'est bien, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi, j'apprécie aussi beaucoup ce groupe-là.
Mais
là aussi, c'est bien.
Oui, mais c'est vieux.
Bon. C'est pas vieux, ça n'a pas d'âge.
Bon. Et vous disputez pas, vous disputez pas. Allez, je laisse la parole à Clarisse qui va vous parler, je crois, de Kazakh.
Oui, alors je vais vous parler de Kazakh, l'autre cible. Parce qu'on a beaucoup parlé des Ouïghours en Chine, dans la province du Xinjiang. Mais il y a aussi des Ouïghours au Kazakhstan et qui sont aussi réprimés. Donc la répression des Ouïghours au Xinjiang est désormais connue, celle contre les Kazakhs les moins. Donc c'est un article par Grégoire Ozoa. Alors, Gulaïcha Oralbe, une femme kazakh, a ainsi raconté aux chercheurs d'Amnesty International ce qui arrivait à son frère, Dichat Oralbe, journaliste et traducteur à la retraite. Les autorités chinoises ont d'abord amadoué pour qu'il revienne au Xinjiang depuis le Kazakhstan en 2017. Dès son retour, elles lui ont confisqué son passeport, puis l'ont arrêté quelques mois plus tard. Il n'y a pas de tribunal, ils l'ont juste mis en prison et lui ont dit qu'il y resterait 25 ans, a expliqué Gulaïcha. Ses deux sœurs, Bakit Gul et Bakila Oralbe, se trouvent également en détention. Donc Amnesty International soutient l'appel de dizaines d'experts de l'ONU pour instaurer un mécanisme indépendant, impartial et international chargé d'enquêter sur les crimes contre l'humanité et les graves violations des droits humains commis par le gouvernement chinois dans le Xinjiang. Et j'en profite pour parler aussi des Ouïghours du Kazakhstan, puisque sur Évreux, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une famille Ouïghour qui était venue demander asile en France, qui a eu un parcours très difficile, puisqu'ils étaient d'abord passés par la Suède, puis par l'Allemagne, pour arriver en France. Et en France, leur demande a été rejetée, puisque le Kazakhstan est considéré comme un pays sûr, alors qu'ils sont Ouïghours, et que le monsieur était condamné à devoir rester dans son pays pendant 5 ans sans bouger, assigné à résidence, avec un contrôle policier tous les mois, où il se faisait racketter. D'accord. Donc il était parti, il était venu. Cette famille qui était déboutée de l'asile, il y a eu un comité de soutien qui s'est créé à Évreux. Et je remercie beaucoup les enseignants de l'école du Buisson, les enseignants du collège Jean Jaurès, les amis des Restos du Cœur, d'Artisans du Monde, d'apprentissage du français du Clos au Duc. Parce que toutes ces personnes, ainsi que bien sûr des militants d'Un Toit sous la Main, de RESF, d'Amnesty et du CFED, tous ces gens se sont mis en comité de soutien. Oui. Et monsieur Jérôme Filippini, l'ancien préfet de l'Eure, avant de partir, a signé la régularisation de cette famille de 5 enfants et des 2 parents. Et donc, à ce jour, ils ont leur titre de séjour.
Super.
À titre exceptionnel, avec autorisation de travailler, pour pouvoir rester en France. Bon, ils n'ont pas de passeport, mais ils ont un titre de séjour valable 1 an et qu'on va pouvoir renouveler une seconde fois en attendant de résoudre le problème des passeports.
Comment on dit imiximik, petit à petit.
Oui, petit à petit. Mais en tout cas, merci aux gens qui ont fait partie du comité de soutien et merci aux gens qui ont fait aussi un comité de soutien autour de Caroline et ses 2 enfants. Vous l'avez vu dans le journal cette semaine. Cette femme avait un statut de réfugié en Grèce, donc avec un titre de séjour en Grèce. Sauf qu'en Grèce, quand on a un statut de réfugié, on n'a plus aucune aide. On est dans la rue, sans hébergement, sans argent, sans nourriture, sans travail. Elle ne parlait pas le grec, elle a vécu l'enfer, elle est revenue en France demander asile, et l'OFPRA a jugé sa demande irrecevable.
Oui, oui.
Comme sa demande était irrecevable, l'OFI a dit « dehors au 31 août », et sa fille Daniela, 12 ans, a fait une tentative de suicide dans la nuit du 25 au 26 août, mais Uda Isos a quand même dit « dehors au 31 août ». Donc il y a un comité de soutien, Et là encore, merci aux écoles, les enseignants de l'école Isambard, les enseignants du collège Marcel Pagnol, tout le réseau d'éducation sans frontières. Merci aux 3 syndicats enseignants qui ont rallié le comité de soutien, qui ont demandé une audience au préfet le 5 septembre et le 6 septembre. Caroline et ses 2 enfants étaient relogés à la pause. Entre deux, c'est l'association Un Toit Sous la Main qui a payé 6 nuitées. Mais avec ce travail collectif du CFED, d'RESF, d'Un Toit Sous la Main, du comité de soutien, cette femme et ses 2 enfants ne se sont pas retrouvés à la rue. Et avant de laisser Didier parler pour le local, je veux vous dire quand même que c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs familles avec plusieurs enfants qui se retrouvent à la rue. Dès le 15, il y a 2 familles nigériennes avec 3 à 4 enfants à Évreux. Il y a une famille algérienne, il y a une famille afghane, il y a une famille qui est à Val-de-Reuil. Enfin, il y en a plein avec plusieurs enfants et tous ces gens se retrouvent à la rue sans solution d'hébergement. S'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui ont des grandes maisons, qui peuvent accueillir, parce que c'est pas facile d'accueillir effectivement une famille avec plusieurs enfants, mais les hébergements solidaires, on en a besoin, le temps de régulariser ces personnes et de trouver des solutions humaines, parce que le 115 est saturé, et le 115 répond « Non, nous n'avons pas d'hébergement pour vous, parce que vous êtes en situation irrégulière.
Enfin, » Et on vous contacte où pour...
Par le biais de la radio, vous pouvez contacter soit le CFED d'Asti d'Evreux, soit l'association Un Toit Sous la Main.
Voilà. On peut aussi rappeler le mail d'Amnesty Évreux, hein, on fera suivre, de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà, pour terminer l'émission, je voulais faire un petit appel à l'action, alors c'est pas au niveau local, mais merci à Claire-Lise de nous rappeler l'actualité locale, c'est fondamental, c'est pas au niveau local, mais c'est pour une défenseuse des droits humains en Arabie Saoudite, qui s'appelle Salma Al-Shehab, et qui est une doctorante, je ne sais pas en quelle matière, mais une doctorante de 34 ans, et elle a été condamnée à 34 ans de prison aussi pour son militantisme sur Twitter. Voilà, entre autres, ce que la Cour de justice, entre guillemets, en Arabie Saoudite lui a reproché, c'est d'avoir pris parti pour avoir soutenu effectivement une militante des droits humains que nous-mêmes avons défendue jusqu'à l'année dernière, Louajine Al-Kloub, on en avait parlé dans nos émissions, qui a bénéficié l'année dernière d'une liberté conditionnelle, mais on continue à se battre pour elle pour que le côté conditionnel soit abrogé. Et donc, Salma Al-Shehab avait publié des tweets, entre autres, pour soutenir cette militante des droits humains. Elle a publié d'autres tweets, effectivement, par rapport au respect des droits des femmes en Arabie Saoudite. C'est peut-être pas aussi dramatique qu'en Afghanistan, en Arabie Saoudite, mais ça en est pas loin par rapport aux droits des femmes. Et donc, Amnesty se mobilise pour elle. Donc, on vous demande d'agir. L'action est toute prête. Moi, je l'ai faite, c'est très très simple. L'action est toute prête sur le site d'Amnesty. Vous tapez Salma Al-Shehab, ça s'écrit Al-Shehab, et vous avez l'action, effectivement, à destination de l'ambassade et des autorités d'Arabie Saoudite. Il y a un mail qui est tout prêt, que vous pouvez compléter, enfin, etc. Enfin, bref, c'est tout prémâché. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour faire cette action, parce que cette femme a été condamnée, donc, à 34 ans de prison pour avoir sur Twitter défendu les droits des femmes, ce qui est tout à fait intolérable. Et pour cerise sur le gâteau, si on peut dire, lorsqu'elle sera libérée au bout de 34 ans, elle aura une condamnation de 34 ans aussi, lui interdisant de quitter le pays. Voilà. Sans commentaire. Donc, faut se mobiliser pour elle. Hein. L'action est en cours en ce moment. Je sais qu'Amnesty a déjà récupéré plusieurs milliers de tweets à destination de messages à destination des autorités d'Arabie Saoudite, mais il faut surtout pas se démobiliser. Avant de rendre l'antenne, je sais pas, vous avez un petit commentaire à faire, Clarlise, Mina?
J'ai fait un petit lapsus, c'était pas les enseignants de l'école du Buisson, mais du Clos Hauduc, la famille Toktatopunov, donc un grand merci à eux pour leur soutien. Et puis sinon, quand même, nous, nos émissions de radio, on est en train d'en préparer d'autres.
Justement,
vas-y, dis les dates.
C'est ce que j'allais dire.
Dépêche-toi.
On se retrouve en direct sur l'antenne de Principe Actif pour l'émission Amnesty. La prochaine, c'est le mardi 27 septembre, donc en direct de 19h à 20h. Et là, on va reprendre aussi le cycle des émissions Fréquence Droits Humains, dont on vous a déjà parlé à très nombreuses reprises. La prochaine sera consacrée aux droits des enfants et elle sera diffusée le jeudi 6 octobre de 18h à 19h30 sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle aussi que toutes nos émissions, aussi bien Amnesty que Fréquence Droits Humains, sont disponibles en podcast sur le site de la radio. Vous allez dans la rubrique émissions, vous avez la liste des émissions, vous cliquez sur les nôtres et vous avez tous les historiques des podcasts. N'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter si vous en avez raté certaines. Voilà. Et n'hésitez pas à vous mobiliser pour les droits humains, parce que c'est quand on les perd qu'on se rend compte à quel point c'est indispensable pour vivre intelligemment. Voilà.
Merci
donc
bien.
On laisse l'antenne au laboratoire, à notre ami du laboratoire.
Et c'est la rentrée, on est pile à l'heure.
C'est ça. Et puis on vous dit donc rendez-vous le mardi 27 septembre.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.